Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 6 août 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. En Guinée, le président Alpha Condé dit prendre acte de la décision de son parti de l'investir pour briguer un troisième mandat. Démission du premier ministre mauritanien Ismaël Ould Beda Ould Cheikh Sidiya, il a immédiatement été remplacé. L'Afrique du Sud appelle à la poursuite des négociations sur le barrage éthiopien sur le Nil. Le Liban en deuil accueille le président français Emmanuel Macron après l'explosion qui a fait au moins 137 morts. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une manifestation des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour dénoncer son absence sur la liste électorale à 3 mois de la présidentielle a été dispersée à coups de matraque et de gaz lacrymogène ce jeudi à Abidjan. Pendant ce temps, les Ivoiriens attendent avec impatience le discours du président Alassane Ouattara ce soir, à la veille de la fête de l'indépendance. Les Ivoiriens attendent toujours qu'il donne sa réponse à l'appel de son parti, le RHDP, à se présenter à la présidentielle d'octobre, après le décès du premier ministre Amadougon Koulibaly. En Guinée, le président Alpha Condé a été investi ce mercredi candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir à l'issue d'une convention. Le président guinéen, qui est à quelques mois de son second et dernier mandat, a déclaré qu'il prenait acte du choix porté sur sa personne. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
Comme à son habitude, Alpha Condé a entretenu le flou sur son éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle. Le président guinéen, qui a présidé la clôture de la convention du RPG Arc-en-Ciel, a déclaré avoir pris acte de son investiture par son parti. Il a ensuite cité quelques défis pour la future présidence. Si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que vous vous engagiez à ce que le RPG soit ce qu'il était avant, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne, a dit Alpha Condé, avant d'ajouter, si vous êtes d'accord que les 6 prochaines années feront que nos jeunes soient un exemple pour les pays africains, alors oui. Il faudra attendre encore des heures, des jours et peut-être des semaines pour connaître la position claire du président guinéen. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani change de premier ministre au lendemain de la remise à la justice du rapport d'une commission parlementaire sur la gestion de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdelaziz. Le point avec Nathalie Barche.
Le chef de l'État mauritanien a reçu le premier ministre Ismaël Ould Cheikh Sidiya, qui a présenté sa démission. Monsieur Sidiya, qui était un cadre de l'UPR sous l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, avait été ministre de l'Habitat et de l'Emploi et président de la zone franche de Nouadhibou. Dans la foulée, le président Ghazouani a nommé un nouveau premier ministre, Mohamed Ould Bilal. Le nouveau chef de gouvernement, jusqu'ici conseiller à la primature, est issu de la communauté aratine, les descendants d'esclaves. Ce changement de gouvernement est effectué au lendemain de la remise à la justice du rapport d'une commission parlementaire sur la gestion des deniers publics sous la présidence de Monsieur Aziz. Le dossier devrait être remis à une commission d'instruction. Les députés ont adopté fin juillet une loi instituant une haute cour de justice chargée de juger le chef de l'État et des ministres en cas de haute trahison. La juridiction doit être mise en place dans les prochains mois.
Un navire a fait naufrage au large de la Mauritanie avec une quarantaine de migrants à bord, dont un seul a pu rejoindre le rivage. Nouveau naufrage au large de Nouadhibou avec approximativement 40 personnes à bord. Il y a un survivant de la Guinée, a indiqué sur Twitter Vincent Cochetel, un responsable du HCR. Ils sont tous morts, je pense. Je suis le seul survivant, a déclaré depuis son lit d'hôpital le rescapé, dont les propos ont été rapportés par une source sécuritaire mauritanienne. En RDC, 7 personnes ont été tuées, 17 blessées dans des affrontements entre deux communautés de la région du Kasaï en conflit concernant les limites de terres cultivables. L'administrateur du territoire de Mweka a aussi indiqué que 8 villages ont été incendiés dans ces deux territoires qui se sont vidés de leurs habitants qui ont pris la fuite. Les services de sécurité ont envoyé des renforts dans la zone. Une équipe de la mission de l'ONU en RDC est également arrivée sur place pour évaluer la situation. Nous y reviendrons en partie magazine. Le gouvernement congolais a annoncé ce jeudi le retrait des troupes zambiennes qui occupaient deux villages du sud-est de la République démocratique du Congo après une médiation de la communauté des États d'Afrique australe, la SADC. Mi-mars, des combats avaient éclaté entre les armées congolaises et zambiennes, faisant un mort de chaque côté dans la province du Tanganyika. Le comité mixte de la SADC a également ordonné l'implantation des bornes frontalières provisoires en attendant la construction des bornes frontalières définitives et à matériaux durables. L'Afrique du Sud, qui assure la présidence de l'Union africaine, a exhorté l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan en litige autour de la construction par Addis Abeba d'un barrage sur le Nil Bleu à rester impliqués dans les négociations. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les négociations entrent dans une phase critique et nous voulons encourager les parties à se laisser guider par l'esprit de solidarité et de fraternité panafricaine, a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales. Elle a invité les parties à faire preuve de compréhension mutuelle pour faire avancer le processus. Le Soudan et l'Égypte réclament un accord sur la façon de gérer le barrage. Mais l'Éthiopie est réticente. Le Caire a demandé la suspension des pourparlers et Khartoum a menacé de se retirer, furieux contre un projet d'accord présenté par Addis Abeba. L'Égypte lui reproche de ne pas aborder la question de la gestion du barrage et le Soudan accuse l'Éthiopie de lier cette gestion à une renégociation du partage des eaux du Nil Bleu, ce que refuse Khartoum. L'Égypte et le Soudan invoquent un droit historique sur le Nil que leur garantit des traités conclus en 1929 et en 1959. L'Éthiopie s'appuie sur un traité de 2010, boycotté par le Caire et Khartoum, mais signé par 6 pays que traverse le fleuve, qui autorise des projets d'irrigation et la construction de barrages sur le Nil.
Au Soudan, au moins 10 personnes ont été tuées. Plus de 3300 maisons ont été détruites ou endommagées par les pluies torrentielles qui se sont abattues cette semaine sur une grande partie du Soudan. Selon la défense civile soudanaise, 1800 habitations ont été totalement détruites et 1508 l'ont été partiellement. En outre, 21 écoles et 8 mosquées ont été emportées par les inondations. Mercredi, l'ONU a indiqué que 50 000 personnes étaient affectées par les inondations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Visite du président français Emmanuel Macron à Beyrouth, dévasté par les violentes explosions de mardi. Ces déflagrations ont fait au moins 137 morts et 5000 blessés, selon un bilan encore provisoire. Eric Manerekiza.
L'explosion a alimenté la colère des Libanais qui réclament des comptes. Le chef de la diplomatie, Charles Ben Wahibé, a annoncé la création d'une commission d'enquête qui a 4 jours pour donner un rapport détaillé sur les responsabilités. Le gouverneur de Beyrouth, Marwan Aboud, a décrit une situation apocalyptique. L'état d'urgence a été décrété pendant 2 semaines. Le Liban n'est pas seul, a tweeté le président français Emmanuel Macron à son arrivée à Beyrouth. Il s'est d'abord rendu au port face à une foule ulcérée. Monsieur Macron a assuré qu'il allait proposer un nouveau pacte politique pour changer le système, arrêter la division et lutter contre la corruption. Plusieurs pays ont déjà dépêché des équipes de secouristes et du matériel. L'Union européenne a débloqué 33 millions d'euros en urgence. La FAO dit craindre un problème de disponibilité de farine. Des silos de céréales près du port ont été totalement éventrés.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté les pays membres de l'ONU à ne pas soutenir la candidature de Cuba au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il est scandaleux que le Conseil des droits de l'homme propose d'accueillir Cuba, une dictature brutale qui fait un trafic de ses propres médecins sous prétexte de missions humanitaires, a déclaré M. Pompeo à des journalistes, ajoutant « Aucun pays ne devrait voter en faveur de l'admission de Cuba au Conseil ». Les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme en 2018 pour protester notamment contre ce qu'ils considèrent comme sa partialité à l'encontre d'Israël. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonce les attaques de toutes parts visant les journalistes au Yémen. Les journalistes sont attaqués de toutes parts, ils sont tués, battus ou portés disparus. Ils sont harcelés et menacés et ils sont emprisonnés et condamnés à mort pour avoir simplement tenté de faire la lumière sur la brutalité de cette crise, a fustigé la haut-commissaire Michelle Bachelet dans un communiqué. L'ONU se dit particulièrement préoccupée par le sort de 4 journalistes condamnés à mort le 11 avril à Sanaa. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par John Lyndon.
Bruxelles va abriter en décembre prochain une table ronde des investisseurs sous l'égide de la commission de la CEMAC. L'objectif sera de mobiliser 2400 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets de développement dans la région CEMAC. 11 projets ont été retenus, notamment celui du corridor Brazzaville-Ouezo-Bangui-N'Djamena, devant relier le Congo, la Centrafrique et le Tchad. L'opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN annonce qu'il va se retirer du Moyen-Orient à moyen terme, en commençant par la vente de sa participation de 75% dans MTN Syrie pour se concentrer sur l'Afrique où ses bénéfices progressent. Les actifs de MTN au Moyen-Orient ont contribué pour moins de 4% aux bénéfices du groupe. La ville de Yaoundé au Cameroun va accueillir la première édition du Forum africain des femmes entrepreneurs du 23 au 28 novembre. L'objectif de ce forum est de favoriser la migration des femmes entrepreneurs de l'informel vers le formel et de faciliter leur accès au financement. Ici aux États-Unis, les inscriptions au chômage sont reparties à la baisse après 2 semaines de hausse, selon les chiffres publiés ce jeudi par le département du travail. Entre le 26 juillet et le 1er août, 1,19 million de personnes se sont inscrites au chômage, en baisse par rapport aux 1,43 million de la semaine précédente. Le taux de chômage du mois de juillet sera annoncé demain vendredi, alors que le pays connaît depuis fin juin une flambée de nouveaux cas de COVID-19.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Cheikh Ndoye a rendez-vous avec son ancien club Angers le 10 septembre devant les Prud'hommes. Le Sénégalais dénonce une promesse d'embauche non tenue, contestant la proposition de contrat de 2 ans du club français non respecté après sa blessure. C'est à l'été 2018 que Ndoye est revenu à Angers après un prêt suivi d'un contrat de 2 ans. Mais en mars 2019, le joueur s'est blessé au ligament croisé en sélection et le club n'a plus donné de nouvelles. De son côté, le Togolais Michael Poté a quitté Erzurum Spor en Turquie pour Bandırma Spor pour une saison, club qui vient d'obtenir la montée en 2e division. L'attaquant a marqué 9 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Ici, en MLS, les Portland Timbers ont décroché le premier billet pour la finale du tournoi de reprise de la Ligue nord-américaine. Ils ont battu la Philadelphia Union 2-1 dans la bulle de Disney World en Floride. Portland, lauréat de la MLS Cup en 2015, jouera pour le titre face au vainqueur de l'autre demi-finale, opposant ce soir Orlando et Minnesota. La finale du MLS East Back, tournoi de reprise de la Ligue lancée le 8 juillet à huis clos, est prévue le 11 août. En basketball, les Los Angeles Lakers ont été sèchement battus 86-105 par le Thunder d'Oklahoma. Oklahoma revient ici dans la course pour décrocher la 4e place de la conférence Ouest. À l'Est, les Orlando Magic et les Brooklyn Nets ont tous deux chuté face à 2 sérieux prétendants au titre. Les Raptors, champions l'an dernier et actuel 2e, et les Celtics qui pointent juste derrière au classement. Toronto s'est imposé face au Magic 109-99. Orlando reste en 8e position, juste derrière Brooklyn, qui a subi la domination de Boston 149-115. Philadelphie l'a lui emporté 107-98 face à Washington, grâce au Camerounais Joel Embiid, en grande forme avec 30 points. Les Wizards seront définitivement éliminés de la course aux playoffs s'ils ne l'emportent pas ce vendredi face à la Nouvelle-Orléans, ou si Orlando et Brooklyn remportent leur prochain match. À l'Ouest, les Grizzlies Grizzlies sont eux aussi dans le doute après leur défaite face au Utah Jazz, 115-124, leur quatrième en quatre matchs depuis la reprise.
Merci à Proba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des affrontements entre deux communautés ont repris entre le Kasaï et le Kasaï central. Les deux derniers jours, au moins 7 personnes ont été tuées, 17 blessées dans des affrontements. Eddie Sango a joint à Kinshasa le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé Toutoktok.
Il s'agissait d'un incident lié à des rivalités d'intérêts économiques entre deux communautés, l'une vivant dans la province du Kasaï central et l'autre dans la province du Kasaï, se précipitant pratiquement des champs, qui a dégénéré malheureusement un conflit intercommunautaire suite à des incompréhensions liées à un certain positionnement. Mais c'est pas aujourd'hui que cela commence, ça va faire un peu d'une année et demie que nous sommes la province du Kasaï et la province du Kasaï central dans un conflit de ce genre, mais ce n'est pas vraiment fondamentalement un conflit entre institutions. Il s'agit tout simplement d'une mauvaise compréhension et des mauvaises interprétations liées à des communautés, donc qui nous appellent nous à les gérer et qui malheureusement dans les dernières 48 heures ont dégénéré un conflit sanglant et a entraîné mort d'homme.
Est-ce que vous avez le bilan de ces derniers affrontements?
Bien, aujourd'hui on ne peut pas donner un bilan très très précis car il s'agit d'une succession d'événements qui dure depuis un certain temps. Donc il y a eu des décès avant, il y a eu des décès hier, il y a eu des décès avant-hier. Donc à ce jour, dans les trois dernières semaines, on pourrait aller jusqu'à... si je dois me limiter à ce qui s'est passé entre avant-hier et hier seulement, du côté du Kasaï, nous avons dénombré quatre décès avant-hier et trois décès hier, donc ça fait 7 décès. Plusieurs blessés par ailleurs.
De quoi se disputent finalement ces deux groupes qui apparemment semblent être de frères, voisins?
Non, mais je viens de vous dire qu'il s'agit des conflits liés à des exploitations champêtres. Mais nous, notre crainte, c'est lorsque, dans une certaine mesure, nous constatons que les conflits se trouvent à environ entre 15 et 20 kilomètres, mais que dans les limites, là où se trouvent pratiquement les limites administratives, on s'en prenne par exemple à la résidence de l'un de nos sénateurs qui a donné pratiquement de la valeur à cette cité qu'on ait décidé d'y mettre de feu alors qu'il n'y était pas. Il n'y avait pas des gens qui habitaient là-bas. C'est son chef, mais que finalement on tente de mettre le feu là-bas. Donc, nous essayons d'interpréter un tout petit peu quel est le message qu'on a tenté de donner en essayant de mettre le feu dans la résidence de notre sénateur. Donc c'est là que nous commençons à nous inquiéter un tout petit peu et à nous dire que est-ce que ceci des conflits champêtres ou pas. Bon, mais évidemment, nous avons ouvert des enquêtes. Le gouverneur du Kasaï central à l'intérim et moi-même avons pris rendez-vous pour des rencontres à ce sujet. Nos administrateurs du territoire se sont rencontrés. Nous pensons que d'ici peu, nous allons disposer de quelques éléments pour nous permettre d'essayer exactement quel est le véritable message qui est donné.
C'était le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé Toutoktok.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En Guinée, le parti du président Alpha Condé lui a demandé de se représenter pour un troisième mandat. Récemment, en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a demandé aussi à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat après la mort du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné de ce parti. Et pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Siaka Koulibaly, analyste politique et expert des questions électorales.
On a eu dans un premier temps les régimes d'exception avec des partis unis et qui consacraient effectivement les règnes de dirigeants politiques sur la durée. Après, il y a eu un renouveau constitutionnel de 1990 qui a voulu amener les principes de la démocratie occidentale et c'est là qui aujourd'hui constitue tous ces problèmes-là. Au-delà des deux cas que nous avons sous la main aujourd'hui, Côte d'Ivoire et Guinée, vous vous rappelez très bien que dans le passé, les mêmes problèmes se sont posés au Togo et au Burkina Faso. Donc, je pense qu'il faut avoir une vue plus large et comprendre que il faudrait peut-être d'autres mécanismes pour que les Africains puissent adhérer définitivement à la notion de l'alternance politique à la tête de l'État.
Et quel pourrait être ce genre de mécanisme? Est-ce qu'il faudrait une implication des organisations sous-régionales?
Justement, il faudrait que les organisations sous-régionales soient mises au premier plan, mais sur des thématiques ou des fonctions bien précises qui seront aussi retirées aux États. Nous avons déjà proposé dans le cadre de l'organisation de la société civile sous-régionale qu'on confie à la CEDEAO, par exemple, le rôle d'organisation et de supervision des élections dans tous les pays de la CEDEAO. Comme ça, la classe politique prend part aux élections, mais elle ne doit pas participer à l'organisation de ces élections-là pour une période précise, de sorte qu'elle ne puisse pas influencer ces processus électoraux. Tant que les processus électoraux seront organisés par les classes politiques des pays, je crains que nous ne puissions pas sortir de cette problématique de l'alternance à la tête de l'État.
Alors, en ce moment, l'Afrique de l'Ouest ne se porte pas très bien sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il faut craindre que des tensions politiques puissent envenimer la situation, notamment à partir de la Côte d'Ivoire et peut-être même de la Guinée?
Oui, tout à fait. On sait bien que lorsque la stabilité politique n'accompagne pas les politiques sécuritaires, cette dernière ne peut pas fonctionner. Ceci dit, on a déjà la situation au Mali où le régime n'est pas tout à fait légitime, populaire, accepté des populations. Et cela l'oblige à recourir à peut-être la corruption même au sein des forces militaires. Et finalement, c'est la sécurité qui prend un coup à ce niveau-là. Et si les tensions politiques s'avivent dans les pays comme la Guinée et la Côte d'Ivoire, on peut très bien assister à ce genre de situation qui pourrait y survenir. D'autant que la Côte d'Ivoire est déjà sujette aux attaques terroristes. On en a vu quelques-unes dans le nord du pays.
C'était l'analyste politique burkinabé Siaka Koulibaly.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
À cause du nouveau coronavirus, beaucoup d'États américains ont élargi les options de vote pour la présidentielle de novembre. Le vote par correspondance remonte à la guerre civile, mais le président Donald Trump affirme que cela va entraîner la fraude ou des mois d'incertitude après le scrutin. Patsy Huda-Kuswara, correspondante à la Maison-Blanche, explique comment une option de vote de routine devient un débat politique central. Le récit de Lionel Gaïma.
Certains New-Yorkais ont bravé la menace du coronavirus pour voter en personne à la primaire démocrate du mois de juin. Mais beaucoup ont voté par correspondance, inondant un système électoral mal préparé. 6 semaines plus tard, les résultats dans certaines circonscriptions n'ont toujours pas été annoncés. Le président Donald Trump a averti à plusieurs reprises que si les États-Unis comptent le vote par correspondance pour le scrutin présidentiel de novembre, le même type de retard pourrait se produire.
Vous ne connaîtrez pas le résultat des élections avant des semaines, des mois, voire des années. Peut-être même que vous ne saurez jamais le résultat des élections. Et ce qui m'inquiète, ce sera faussé, ce sera truqué.
Les responsables électoraux répondent que la fraude électorale aux États-Unis est extrêmement rare, même pour le vote par correspondance. La plupart des États autorisent le vote par courrier, mais cette année, à cause de la pandémie, il y a risque d'y avoir un plus grand nombre de bulletins envoyés par la poste, ce qui nécessiterait plus de temps pour les compter. S'il y a retard, ce ne sera pas la première fois aux États-Unis. En l'an 2000, le litige électoral entre Al Gore et George W. Bush avait duré plus d'un mois en raison des récompenses en Floride. Le scrutin de novembre prochain pourrait être encore plus controversé. Matthew Well, du Centre de politique bipartisane.
Nous sommes actuellement dans un environnement hyper polarisé. Et donc, toute possibilité qu'un candidat puisse prétendre qu'il a une sorte de chicanerie dans les coulisses sera un problème. Le gros problème cette fois, c'est que ce ne sera pas seulement un État comme la Floride. Je pense qu'il y a 3 ou 4, peut-être 5 États où cela pourrait prendre une semaine de plus.
Alors que Trump est revenu sur sa suggestion de reporter les élections, il continue à soulever des doutes et des soupçons sur le vote par correspondance. Richard Hessen, professeur de droit à l'Université Irvine en Californie.
Si plus de ses partisans votent en personne et qu'il est en tête le soir des élections, il pourrait prétendre, comme il l'a déjà suggéré, que les bulletins de vote par correspondance qui arrivent sont frauduleux et tenter de proclamer sa victoire.
Mercredi, la campagne de Trump a porté plainte contre l'État du Nevada, dirigé par les démocrates, pour un projet d'envoyer des bulletins de vote par correspondance à tous les électeurs inscrits. Mais dans l'État pivot de Floride, dirigé par les républicains, le président encourage le vote par correspondance, affirmant que le gouverneur actuel et passé de cet État ont nettoyé le système électoral, le rendant sûr et sécurisé. Le président Donald Trump.
Les deux gouverneurs ont vraiment un excellent système de vote par procuration et même dans le cas de vote par correspondance.
Les sondages montrent que davantage d'Américains veulent voter par correspondance en novembre, mais il y a un fossé croissant quant à savoir si c'est vraiment sûr. Carlin Bowman de l'American Enterprise Institute.
Les démocrates sont beaucoup plus susceptibles que les républicains de dire maintenant qu'ils aimeraient le vote par courrier.
Élargir la participation des électeurs dans certains États aiderait Biden. Dans d'autres, comme la Floride, on s'attend à ce que ça soit au profit de Trump. Mais quel que soit le gagnant, d'après les analystes, le principal défi sera d'assurer que les deux parties acceptent le résultat comme crédible.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, Lionel Gaïma, José Molissin et Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dans un discours prononcé récemment dans l'État de l'Iowa sur la liberté religieuse, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que celle-ci est notre première liberté selon la Constitution. Ajoutant un haut respect de ce droit inaliénable guide notre administration. La liberté religieuse demeure menacée dans beaucoup de pays. Le secrétaire d'État Pompeo a souligné que 4 personnes sur 5 dans le monde ne jouissent pas de leur entière liberté religieuse. Dans le but d'améliorer la situation des personnes cherchant à exercer leur liberté de conscience, les États-Unis font usage de tous les outils à leur disposition, y compris en désignant les pays violateurs de ce droit fondamental. Nous avons interpellé la Chine au sujet de sa guerre sur la foi à sa détention massive des Ouïghours. Ces décisions impies de remplacer les affiches des 10 commandements dans les églises par les mots du secrétaire général Xi n'ont pas manqué d'être soulignées. Au cours des 2 dernières années, le département d'État a organisé 2 rencontres ministérielles pour le progrès de la liberté religieuse, au cours desquelles les pays et les leaders religieux du monde entier se sont réunis en vue de protéger le droit fondamental qu'est la liberté religieuse. L'Amérique est profondément engagée à protéger les libertés fondamentales de peuples à travers le monde. C'est le fier héritage de fondateurs qui ont édifié les États-Unis sur l'engagement de garantir au peuple américain certains droits inaliénables inscrits dans la Déclaration d'indépendance et la Constitution, a dit le secrétaire d'État Pompeo. Notre politique étrangère doit être ancrée dans cette notion centrale, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. C'est cet engagement qui a fait de nous une étoile brillante de la liberté dans le monde. Notre édifice en matière de politique étrangère est bâti sur la pierre de ces solides principes édictés à notre fondation.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.